Chapitre 57. Callan s'immobilisa dans la pénombre, pas très loin du pont. De l'autre côté, elle distinguait la silhouette solitaire d'un homme plutôt costaud. À cette distance, il était impossible de distinguer les traits de ce personnage. L'inquisitrice sonda l'autre berge et ne repéra pas de soldat. Apparemment, l'homme était seul.
« Callan !»
gémit Jensen. Elle prit le bras de sa belle-sœur.
« S'il vous plaît !»
L'inquisitrice éprouvait un calme souverain. Consciente de n'avoir pas le choix, elle ne se sentait pas minée par l'indécision. Les choses étaient simples. La vie ou la mort de Richard était en jeu. Callan avait tranché. Du coup, elle était animée d'une détermination qu'on aurait pu qualifier de tranquille. Désormais, il ne lui restait plus qu'à se concentrer sur son objectif. Le fleuve était plus large que la jeune fille l'aurait cru. Dans cette zone, ses berges pentues étaient hautes de plusieurs dizaines de pieds et renfoncées de blocs de pierre. Assez large pour que deux chariots se croisent, le pont en forme d'arche dominait des eaux noires et tumultueuses, bref, pas le genre qui donnait envie de prendre un bain. Callan marcha jusqu'à l'entrée du pont et s'immobilisa. De l'autre côté, l'homme la regardait intensément.
« Vous avez l'antidote ?»
cria-t-elle. L'inconnu brandit ce qui ressemblait à un flacon, puis il baissa le bras, désignant le pont. À l'évidence, il voulait que la mère inquisitrice traverse.
« Vous devriez réfléchir encore, »
souffla Owen, des larmes aux yeux.
« Réfléchir à quoi ? Savoir si je préfère laisser mourir Richard ? Renoncer à tuer Nicolas parce que je me fiche de libérer ton peuple et de vaincre l'ordre impérial ? Comment pourrais-je continuer de vivre si Richard meurt alors que j'ai la possibilité de tenter quelque chose pour le sauver et pour mettre un terme aux méfaits de Nicolas ? Si je ne faisais rien, je ne pourrais plus jamais me regarder en face. Nous livrons ce combat pour nous débarrasser des tyrans qui veulent nous priver de liberté et étouffer notre joie de vivre. Ces gens haïssent la vie et ils vénèrent la mort. Ils voudraient que nous leur ressemblions jusque dans leur dégoût de l'existence.
J'ai un jour déclaré que le combat contre l'ordre était une lutte à mort et qu'il n'y aurait pas de merci. Changer d'idée serait un suicide. Tout est clair dans mon esprit.
« Que dirons-nous au seigneur Rall ?»
demanda Tom.
« Que je l'aime, mais il le sait déjà. »
Callan défit son ceinturon d'armes et le tendit à Jensen.
« Owen, »
dit-elle,
« viens avec moi. »
L'inquisitrice voulut se mettre en chemin, mais Jensen lui jeta les bras autour du cou et la serra contre elle.
« Ne vous inquiétez pas. Dès que nous aurons apporté l'antidote à Richard, nous viendrons vous délivrer. »
Callan rendit son étreinte à la jeune femme, puis elle se dégagea, murmura un merci et s'engagea sur le pont, Owen à ses côtés. Sur l'autre rive, l'homme ne bougea pas d'un pouce. Comme elle l'avait prévu depuis le début, Callan s'arrêta au milieu du pont.
« Apportez le flacon !»
cria-t-elle.
« Venez jusqu'ici et vous l'aurez.
Si vous voulez que j'avance encore, rejoignez-moi et donnez le flacon à l'homme qui m'accompagne. C'est le marché que m'a proposé Nicolas. »
L'homme hésita un moment. Il ressemblait à un soldat, pas à la description qu'Owen avait faite du chapardeur. Il finit par se décider et avança.
« C'est l'officier que j'ai vu parler avec Nicolas, »
souffla Owen à l'oreille de Callan. De fait, le type portait un couteau sur une hanche et une épée sur l'autre, un équipement plus habituel chez un soldat que pour un sorcier. Quand il fut à quelques pas de Callan, il s'immobilisa.
« Le message proposait un marché, moi contre l'antidote. »
L'officier au nez crochu eut un méchant rectus.
« Il paraît, oui. »
« Je suis la mère inquisitrice. Si vous tenez à votre peau, donnez-moi le flacon. »
L'homme avança et posa l'antidote dans la main tendue de Callan. Baissant les yeux, celle-ci s'assura que le flacon était bien plein d'un liquide clair, puis elle retira le bouchon, approcha le goulot de ses narines et sentit une odeur de cannelle qui finit de la rassurer.
« Mon ami va nous quitter, »
dit-elle après avoir passé le flacon à Owen.
« Et vous, vous venez avec moi. »
Il saisit le poignet de Callan.
Sinon, nous mourrons tous sur ce pont. Votre ami peut partir, mais si vous tentez de me fausser compagnie, adieu tout le monde.
Phil, souffla l'inquisitrice à Owen.
Le bandaka regarda l'officier, puis la femme de Richard. Il semblait avoir beaucoup de choses sur le cœur, mais il se contenta de hocher la tête, tourna les talons et courut vers l'endroit où Tom et Jensen l'attendaient. Quand il les eut rejoints, l'officier lâcha froidement.
« Allons-y si vous tenez à votre peau. »
Callan dégagea son poignet. Quand l'homme se mit en chemin, elle lui emboîta le pas. Sur l'autre rive, il semblait n'y avoir toujours personne. Mais cette constatation ne la rassura pas plus que ça. Nicolas devait être tapi quelque part et se frottait les mains en attendant sa proie. Le ciel s'illumina soudain. Quand elle se retourna, Callan vit qu'une énorme boule de feu, presque noire, enveloppait le pont. Des éclats de pierre montèrent vers le ciel. Sous la boule de feu, le pont se désagrégeait. Il céda d'abord au centre, puis toute la structure tomba dans le fleuve. Les sangs glacés, Callan se demanda s'il y avait d'autres ponts. Sinon, comment rejoindrait-elle Richard si elle réussissait à neutraliser Nicolas? Et en cas d'échec, comment ses amis la retrouveraient-ils? Sur l'autre rive, Jensen, Owen et Tom couraient déjà sur le chemin qui menait à Richard. Ils étaient bien trop pressés pour assister à la destruction du pont. Pensant à son mari, Callan eut du mal à étouffer un sanglot.
« Avancez !»
cria l'homme en la poussant sans ménagement. L'inquisitrice foudroya du regard l'ignoble officier au rictus satisfait. Alors qu'elle marchait devant lui et qu'il n'hésitait pas à la pousser de temps en temps, elle sentit la fureur monter en elle. Elle aurait adoré déchaîner son pouvoir sur cet horrible salaud, mais elle devait se concentrer sur Nicolas, sa cible prioritaire. Quand elle s'engagea dans la rue qui prolongeait le pont, montant vers la cité, Callan distingua les soldats qui se tapissaient dans les rues latérales, bloquant toutes les voies d'évasion. Qu'ils aillent au diable! Pour le moment, fuir ne l'intéressait pas, car elle était sur la piste d'une proie. Malgré son arrogance, l'officier qui la suivait se méfiait d'elle, c'était évident, et le sentir anxieux lui remontait le moral. De ce côté du fleuve, des myriades de petits bâtiments étaient collés les uns aux autres. Des rues étroites serpentaient entre eux, et les branches basses des rares arbres, plantés presque sur le passage, ressemblaient à des serres tendues vers un gibier. Callan essaya d'oublier qu'elle s'enfonçait profondément dans le territoire ennemi. Il ne fallait surtout pas qu'elle pense à tous les hommes qui la cernaient. La dernière fois qu'elle avait été piégée par des brutes, elle avait failli laisser la peau, et son enfant à naître, l'enfant de Richard, n'avait pas survécu. Ce jour-là, Callan avait perdu une sorte d'innocence, ou plutôt la naïve conviction qu'elle était invincible. Depuis, elle prenait à chaque minute un peu plus conscience de la fragilité de la vie. Toute existence ne tenait qu'à un fil. Et il était si facile à couper. Quand il avait cru la perdre, Richard avait souffert comme jamais. Chaque fois qu'il posait les yeux sur elle, elle lisait dans son regard une angoisse au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. C'était très différent des tourments que lui infligeaient le poison et son don. Une douleur impuissante, voilà ce qu'elle avait vu. Et si elle échouait, le calvaire de Richard recommencerait. Une silhouette sortit soudain de derrière un bâtiment sur la droite. L'homme portait une tunique noire couverte de plusieurs couches de bandes de tissu qui évoquaient des plumes. Quand il avançait, ses bras ressemblaient aux ailes d'un oiseau de proie. Ses cheveux étaient tenus en arrière par des huiles qui brillaient sous les rayons de lune. Sur son visage, au rictus malsain, de petits yeux noirs maquillés de rouge regardait sans cesse de gauche et de droite. Comme s'il s'agissait de cerfs, l'étrange personnage tenait croisé sur sa poitrine ses mains aux longs ongles noirs. Callan sut immédiatement qu'elle était en face de Nicolas le chapardeur. Par le passé, elle avait arraché des aveux à des hommes qui ressemblaient à de gentils garçons, à d'honnêtes pères de famille ou à d'adorables grands-papas. En réalité, il s'agissait de monstres, coupables d'actes d'une incroyable cruauté. Quand on les voyait fabriquer des chaussures dans un atelier, vendre du pain derrière un comptoir ou s'occuper d'animaux dans un champ, il était difficile de les croire capables de tels crimes. En revanche, dès qu'on apercevait Nicolas,
on n'avait pas le moindre doute sur sa nature profonde.
« Le plus grand trophée de tous !»
siffla-t-il en tendant un poing fermé.
« Et il est pour moi !»
Callan entendit à peine les propos du sorcier. En elle, le pouvoir n'attendait plus qu'un ordre pour se déchaîner. Elle se tenait devant l'homme qui avait pris pour otage d'innocents citadins, le sorcier qui amenait la mort et la souffrance dans son sillage. L'ennemi qui les tuerait, Richard et elle, s'il en avait l'occasion. Callan saisit au vol le poignet du chapardeur. Le sorcier se pétrifia. Soudain, le firmament piqueté d'étoiles parut plus distant et glacé que jamais. Nicolas se tendit comme s'il songeait à dégager son bras, mais il était trop tard, il n'avait pas une chance, il était à elle, le temps appartenait à l'inquisitrice. Les soldats qui accouraient de partout n'arriveraient pas à temps pour sauver le chapardeur. L'officier au nez crochu était beaucoup plus près, mais lui aussi serait impuissant. Le temps se figeait. Callan en devenait la maîtresse. Nicolas ne lui échapperait pas. Qu'importait ce que lui feraient ensuite les soldats? Pour le moment, rien ne comptait à part accomplir sa mission. Cet homme devait être éliminé. Cet ennemi n'avait plus le droit de vivre. Au nom de l'ordre impérial, il avait envahi un pays, puis torturé et assassiné ses habitants. Ce n'était plus vraiment un homme, mais un monstre créé par la magie pour détruire les alliés de Callan. Totalement maléfique, il était un outil entre les mains de Jagang, et il menaçait la vie de Richard. Le pouvoir de l'inquisitrice exigeait qu'elle le libère. Toutes les émotions s'effacèrent de l'esprit de Callan. Elle oublia la peur, la colère, la haine et l'horreur. Tout ce qui pouvait faire obstacle entre sa logique et elle s'était volatilisé. En cet instant où le temps arrêtait son vol, comme si la montée du pouvoir en elle le tétanisait, Callan éprouvait une détermination inébranlable. Toutes les barrières cédèrent devant sa magie. En un éclair, alors qu'elle sondait les yeux de fouine du sorcier, son pouvoir devint tout ce dont elle avait encore conscience. Comme elle l'avait fait en des dizaines d'occasions, l'inquisitrice cessa de le brider et se laissa emporter par le flot tumultueux de sa violence. Alors qu'elle aurait dû sentir jaillir d'elle une force impitoyable, elle ne capta qu'un vide terrifiant. Pourtant, son pouvoir aurait déjà dû être en train d'investir et de détruire l'esprit de cet homme. Mais rien ne se passait. Callan écarquilla les yeux et cria de douleur comme si un couteau à la lame chauffée au rouge lui déchirait les entrailles. Puis elle capta l'intrusion dans son âme d'une entité étrangère plus malfaisante que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. La douleur devint une souffrance mentale insoutenable. Quelque chose déchiquetait son esprit de l'intérieur. Elle tenta en vain de crier. Dans le silence de mort de cette nuit d'encre, elle crut entendre les échos d'un rire se répercuter à l'infini dans son âme.